Radio.
Radio.
Radio. Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine. Madame Nathalie Arthaud, bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre studio à l'école de journalisme de Sciences Po, dans le cadre de cet événement organisé par l'ensemble des médias étudiants de notre école. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2022 pour y représenter le Parti de la lutte ouvrière, un parti caractérisé par sa vocation communiste et donc sa lutte contre le capitalisme, basée sur une société inégalitaire qui se nourrit de l'exploitation, pour reprendre vos mots. C'est donc la troisième fois que vous vous présentez aux élections présidentielles, mais avant d'être une femme politique, vous êtes aussi professeure d'économie et vous enseignez dans un lycée en Seine-Saint-Denis. Et justement, nous allons parler éducation aujourd'hui, en nous centrant sur l'enseignement supérieur et la recherche, car c'est le thème que nous avons choisi d'aborder à Radio Germaine avec chaque candidat tout au long de cette séquence présidentielle. Nous allons donc commencer cette interview sans plus tarder. Et tout d'abord, je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à trouver des informations sur votre programme en ce qui concerne l'éducation. Donc est-ce que vous avez des propositions concrètes en matière d'éducation ou considérez-vous que ce n'est pas un combat essentiel de votre parti ?
Moi, je pense évidemment que la jeunesse et son éducation est l'avenir, de la société. Et que, mais que dans ce cadre... dans ce cadre capitaliste de la société, ben évidemment, elle a elle-même toutes les tares, enfin elle porte finalement toutes les tares que l'on connaît, c'est-à-dire les inégalités, le manque de moyens, à moins que le secteur de recherche intéresse quelques groupes industriels ou financiers, voilà. Et pour nous, on ne dissocie pas, si vous voulez, l'avenir de l'éducation et du secteur de la recherche de l'avenir de l'ensemble de la société. En fait, c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être eu du mal, en effet, à trouver des propositions spécifiques.
Bonjour Madame Arthaud, merci d'être avec nous. Vous avez déjà évoqué dans différentes interviews, par exemple, que vous trouviez que les droits à la scolarité étaient trop chers, que la sélection à l'entrée des universités était trop dure. Est-ce que vous auriez tout de même des propositions concrètes en matière d'éducation supérieure ?
Moi, je pense clairement que tout devrait être gratuit. Que tout devrait être gratuit, mais vous savez, même parler de gratuité, c'est même largement insuffisant. Parce que cette gratuité, elle existe en théorie, en ce qui concerne l'école primaire, le premier degré et le second degré. Mais en réalité, moi, je suis enseignante, je vois bien qu'il n'y a pas du tout les mêmes moyens qui sont mis dans les écoles de la Seine-Saint-Denis, par exemple, quand on les compare aux moyens qui sont mis au centre de Paris, par exemple, dans les quartiers bourgeois. Donc, vous voyez, cette simple affirmation de l'égalité ne suffit pas, en réalité. Donc, et cette affirmation de la gratuité, ça ne suffit pas. En fait, par tous les bouts, rentrent... les questions, les enjeux d'argent, de classe sociale, par absolument tous les bouts. Donc bon, moi je pense que ça devrait être effectivement gratuit. Je pense en effet que tous ceux qui sont désireux de se consacrer à leurs études, à apprendre, à la recherche, devraient pouvoir y consacrer tout leur temps. Et c'est révoltant de voir que finalement ça s'est réservé aux enfants des familles bourgeoises. C'est finalement un privilège de la bourgeoisie que de pouvoir se consacrer complètement à ses études. Donc ça fait partie des choses, bien sûr, qui me révoltent. Mais je crois que pour les changer et pour supprimer cette inégalité-là, il faut effectivement viser le renversement de toute la société. La reproduction sociale... oui, elle se fait depuis qu'il y a des classes sociales, en fait. Depuis qu'il y a des classes sociales. Et quoi qu'on dise les différents gouvernements qui se succèdent, l'école n'échappe pas, en réalité, à tous ces mécanismes-là de reproduction sociale.
Donc pour vous, par exemple, les mesures mises en place comme des mesures de discrimination positive, comme le fait à Sciences Po avec la procédure des CEP, c'est pas suffisant, en fait, pour remédier à ces inégalités ?
J'ai envie de dire que c'est une espèce de cache-sexe, voilà. Et je trouve que c'est... En tout cas, c'est pas du tout... mon ambition, elle ne se limite pas à faire en sorte que quelques-uns réussissent à tirer leur épingle du jeu dans cette concurrence, dans cette situation où effectivement il y a beaucoup de jeunes des quartiers populaires qui partent dans cette compétition avec pas mal de boulets aux pieds, vous voyez. Donc dire qu'on va en tirer quelques-uns, hein, et qu'il y aura des quelques heureux élus qui sortiront du lot, moi je ne peux pas m'en contenter. Je ne peux absolument pas m'en contenter, et je pense que il faut viser bien sûr plus loin. Je ne suis absolument pas d'accord, moi, quand j'entends dire que pour un certain nombre d'enfants, enfin, ce qu'on dit, ce qu'on entend, c'est que ils ne sont pas faits pour l'école. Moi, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est l'école qui n'est pas faite pour eux. Et ça, ça fait partie aussi de mon combat. Et je pense qu'on ne peut absolument pas se satisfaire de l'idée que, voilà, on va mettre le paquet sur quelques-uns, les plus méritants. Bon, méritants au nom de quoi, de qui, enfin bon, hein, grande question, hein, parce que cette question du mérite, ça peut se discuter pendant des heures et des heures. Hein. Voilà, donc pour moi, tout ça, c'est beaucoup de la poudre aux yeux. Voilà, de la poudre aux yeux pour en fait légitimer un ordre social, hein, pour légitimer un ordre social, pour faire croire, bah, regardez, l'ascenseur social, n'est-ce pas, il marche bien pour quelques-uns, ceux qui le veulent. Hein. C'est une façon aussi finalement de, je dirais, de justifier finalement l'élitisme et la sélection que génère forcément cette organisation de l'éducation.
Du coup, vous avez une ligne plutôt bourdieusienne du mérite, c'est bien ça?
Bourdieu, il a, pour moi, il n'a fait que décrire et comment dire, beaucoup plus concrètement, ce que Karl Marx avait pu souligner, mettre en relief, hein, qui constituait vraiment les comportements, les niveaux de vie des classes sociales, les comportements, les niveaux de vie, la culture de ce que sont des classes sociales, en effet.
Et donc pour vous, on peut dire que le système éducatif français, en fait, c'est un peu le reflet de la société capitaliste que nous connaissons. Donc est-ce que c'est nécessaire, comme vous le dites, de le réformer totalement comme cette société capitaliste?
Moi, je pense qu'il faut se battre pour arracher tout ce qu'on peut au jour le jour, y compris dans le cadre de cette société capitaliste. Mais en réalité, pour réussir à émanciper l'ensemble de la société et véritablement faire en sorte que les connaissances, la culture soient mises à la portée de tous, oui, il faudra renverser cette société capitaliste, ça c'est certain.
Et de manière plus concrète pour vous, de quelle façon les étudiantes et étudiants peuvent faire partie de cette lutte anticapitaliste que vous menez? Comment les sensibiliser à cette lutte et effectivement, quel mode d'action pourrait-il utiliser?
Alors moi, c'est vrai que quand on me demande quelles sont les mesures que vous proposez pour aider les étudiants, j'ai envie de leur, surtout de leur dire, eh ben, rejoignez le combat communiste révolutionnaire, rejoignez ceux qui cherchent à construire un parti, hein, visant le renversement du capitalisme, parce que je pense que l'avenir de la jeunesse est bien noir dans le cadre de cette société qui est une fabrique à injustice, qui nous condamne sur en termes d'écologie. On l'a bien vu là, avec encore une fois, avec l'échec de la COP26, hein, mais elle nous condamne aux crises économiques, elle nous condamne aux tensions internationales, parce que c'est une guerre économique permanente, le capitalisme. Donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes, effectivement, engagez-vous pour changer cette société et la changer complètement, c'est-à-dire contester le véritable pouvoir qui est ce pouvoir du grand capital, ce pouvoir des grands actionnaires, des milliardaires sur l'économie. Parce que le véritable pouvoir, il est là. Donc j'ai envie de leur dire, bah oui, vous avez toute votre place, il faut prendre votre place. Les partis révolutionnaires ont toujours eu une aile marchande, hein, qui était constituée par sa jeunesse. Sa jeunesse qui précisément avait l'avantage de ne pas avoir encore les œillères qu'on peut finir par adopter quand on a un certain âge et qu'on considère que, bah, tout ça, c'est dans l'ordre des choses, c'est normal, l'exploitation, c'est normal, les inégalités, c'est normal, il y a des migrants qui meurent de froid dans les forêts à quelques centaines de kilomètres d'ici, c'est normal. Enfin, vous voyez. Donc, heureusement que cette jeunesse, elle a cette fraîcheur, ce regard un peu neuf sur la société et peut justement se dire tout ça, c'est on marche sur la tête. Et cette société-là, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et ils ont cette force-là, de, y compris, enfin, j'ose le croire, d'imaginer un autre type de société. Donc, bah oui, c'est de se transformer en militant, concrètement. Se transformer en militant, c'est de se dire que cette société, c'est la vôtre, c'est à vous de la construire. Elle va dépendre de votre volonté, y compris individuelle, parce que c'est des choix individuels de s'engager. Moi, quand j'avais votre âge, je me suis posé toutes ces questions. Voilà, bien sûr que seul, on ne peut pas faire, on ne peut rien faire. Mais quand on décide de construire collectivement, quand on décide d'avoir une politique à proposer à des millions de femmes et d'hommes, hein, et qu'on sait, hein, qu'il y a des millions de femmes et d'hommes qui un jour se révolteront et chercheront des solutions pour changer la société, eh ben, on réalise qu'on peut être utile. Voilà, qu'on peut défendre effectivement des idées qui peuvent, à un moment donné, changer le cours de l'histoire.
Justement, en parlant de vous, vous avez rejoint très jeune, justement, il me semble, le Lutte ouvrière.
Enfin, très jeune, 18 ans, c'est pas très jeune non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où, bien avant cet âge-là, on travaille, on est exploité. Mais oui, enfin, bon, c'est à 18 ans, oui.
Mais du coup, là, actuellement, vous êtes enseignante d'économie. Les médias donnent rarement des précisions sur ce que ça veut dire exactement. Parce que, est-ce que vous êtes enseignante de sciences économiques et sociales et donc à destination des filières généralistes, ou êtes-vous plutôt enseignante en éco-gestion et donc à destination des filières technologiques professionnelles? Et est-ce que c'est aussi, ça fait partie de votre choix militant?
Alors, non, pas spécialement. Ça a été un peu le hasard des concours, mais je suis effectivement prof d'économie-gestion. Et donc, j'enseigne dans un lycée maintenant polyvalent, puisqu'il y a des filières à la fois générales et technologiques. Mais en effet, et les jeunes que j'ai dans mes classes, en général, sont des jeunes en difficulté, c'est vrai. Mais je suis très heureuse de travailler... avec ces jeunes.
Pardon, justement là-dessus, on aimerait avoir votre avis. Arlette Laguiller, donc ancienne porte-parole de votre parti de la lutte ouvrière, s'exprimait dans un discours en 2007 en disant que l'éducation nationale était en crise et donc en inculpant un État qui ne consacrerait pas le financement nécessaire à celle-ci. Et du coup, en tant que professeur, est-ce que vous aussi, vous pensez que l'éducation nationale est en crise actuellement ?
Oui, je pense que l'éducation nationale connaît les mêmes problèmes que l'hôpital, par exemple. Hein ? Là maintenant, on a quasiment un volant de 20% d'enseignants qui sont contractuels, qui sont précaires, qui n'ont pas l'accompagnement qu'il faudrait. Voilà, en fait, les enseignants, un grand nombre d'enseignants connaissent la précarité. Et puis, bon, bah, écoutez, il y a eu toute la discussion sur les salaires, exactement comme dans les hôpitaux. C'est vrai que les salaires des profs sont bas, sont très bas. Je me souviens, moi, d'une discussion de Nicolas Sarkozy où il avait expliqué qu'il acceptait les pauvres dans sa commune de Neuilly parce qu'il acceptait des instituteurs. J'ai trouvé que c'était très révélateur. Bah oui, lui, ses pauvres, c'était des professeurs des écoles, vous voyez. Bah, c'est le reflet de... Alors, en effet, on est dans une société où il y a un choix de la part du gouvernement de mettre des moyens humains, matériels, financiers, pour former l'élite. Et il y arrive. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il arrive à fabriquer ses traders, il arrive à fabriquer ses ingénieurs, il arrive à fabriquer ses politiciens aussi. Voilà, ça, dévoué à son système, très fort en cinéma et en communication diverses et variées, là, pas de problème. Bon, mais après... ce système, bah, il se cantonne à répondre aux besoins patronaux, c'est-à-dire qu'il a besoin effectivement d'abord de chair à exploiter, hein, et donc dans les lycées professionnels, eh bien, à quoi bon apprendre la littérature ou faire découvrir la philosophie à un chaudronnier, dites-moi, hein, franchement, ça ne serait pas du gaspillage tout ça, hein, sans doute, enfin, en tout cas le gouvernement et Blanquer considèrent que si, ça serait du gâchis. Donc vous voyez, voilà, à la fois un système qui est capable de fabriquer l'élite dont il a besoin pour se perpétuer, et puis pour le monde du travail, les classes populaires, vouées effectivement à l'exploitation, aux tâches répétitives et surtout à obéir, à obéir et à se soumettre aux ordres des autres, ben là, il n'y a pas besoin d'aller très loin, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle, y compris les progrès qu'on a connus en termes éducatifs pendant un certain nombre d'années, sont en train de disparaître. Là, on n'est plus en train de progresser. C'est-à-dire, on n'est plus en train d'élever même de nouvelles générations de jeunes à un certain niveau culturel. Voilà.
Et justement, étant donné que les études supérieures préparent certains d'entre nous à travailler dans le domaine privé, quel rapport, selon vous, les universités doivent-elles avoir avec ces entreprises privées ?
Dans un monde normalement constitué, je pense qu'elles devraient d'abord avoir l'objectif, effectivement, d'aller le plus loin dans les connaissances, dans la recherche ce qu'on pourrait dire, la science pure. Hein. Voilà. Bon, maintenant, comme je vous le dis, on est dans un système capitaliste où tout doit servir à faire du profit. Voilà. Où tout doit servir à rapporter de l'argent à une minorité. Donc, il faut effectivement que les facultés, maintenant, servent au grand patronat, servent aux multinationales d'une façon ou d'une autre. Tout est soumis à cette loi-là. Moi, juste un tout petit exemple, mais vous voyez, les recherches sur l'ARN messager, elles ne sont pas nouvelles, en fait, elles datent, les débuts, ça remonte à une trentaine d'années. Mais en fait, pendant des années, ils ont eu zéro moyen pour travailler sur l'ARN messager. Là, avec le Covid et avec donc la nécessité de trouver très 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 vite un vaccin et voyant que cette technologie pouvait apporter la solution, en tout cas une des solutions importantes, là ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet, y compris les États, mais aussi un certain nombre d'investisseurs privés. Et là, les recherches ont accéléré considérablement.
Donc, voyez vous, ça prouve qu'on peut mettre les moyens quand on en a envie, en fait.
Si, voilà, si ça leur apporte du profit. Si, ça rapporte du profit. Et c'est ça que je conteste, moi, justement. Parce que vous voyez, si je peux me permettre un petit aparté, mais j'étais il y a 2 jours à Dunkerque, et là, donc, j'ai réalisé que tout le port de Dunkerque et toute l'installation industrielle de Dunkerque, qui comprend ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque, un certain nombre de cimentiers et de chimistes, rien que cette zone-là, côtière, émet 21% de CO2 de la France. Quasiment presque un quart. Je me suis dit, mais c'est incroyable, un quart. Je me dis que rien que sur cette zone-là, imaginons qu'on mette tous les chercheurs, tous les cerveaux, ceux qui réfléchissent là sur les méthodes pour décarboner notre fabrication de ciment, d'acier, etc. Moi, je suis convaincue qu'on pourrait aller très très vite, très très vite. Hein, sauf que ça, c'est pas possible, parce que de toute façon, c'est dans les mains de trusts privés qui ont leur propre plan de route et leur propre plan pour réaliser les profits de ces prochaines années, vous voyez. Donc voilà, voilà comment la recherche, effectivement, est soumise à cette loi du profit, et malheureusement, c'est un gâchis inouï.
Alors, Jean-Luc Mélenchon, candidat lui aussi aux élections présidentielles, propose de refonder l'enseignement supérieur avec notamment la suppression des lois LRU et Fioraso qui ont permis jusqu'ici une plus grande autonomie des universités en termes de gestion budgétaire, immobilière, etc. Monsieur Philippe Poutou, lui aussi candidat, partage cette opinion. Êtes-vous d'accord sur le principe justement qu'il faudrait mettre fin à cette autonomie des universités afin justement de pouvoir implémenter ce que vous disiez tout à l'heure?
Oui, je suis d'accord, mais en fait, cette autonomie, surtout, elle masque une dépendance accrue vis-à-vis des financements privés. En fait, vis-à-vis de la bourgeoisie. Et elle masque aussi le fait que l'État lui-même, avec ses moyens, essaye de se retirer. Vous voyez, c'est tout. Donc, effectivement, moi, je fais partie de ceux qui ont combattu toutes ces lois-là. Donc, oui, ça serait... il faudrait l'accompagner par une vraie politique de mise à disposition des moyens nécessaires.
Et du coup, une dernière question rapidement, vous êtes d'accord avec ce genre de mesures, pourquoi ne pas chercher à se rallier justement avec d'autres partis de gauche?
Parce que encore une fois, on peut toujours essayer de pas trop reculer, on peut toujours essayer d'améliorer dans une certaine mesure ce qui se passe, mais les lois fondamentales de cette société capitaliste, elles sont contraires au progrès en fait. Contraire au progrès, contraire au partage des connaissances et donc à l'éducation de tous. Voilà, tout simplement. Et que moi, je ne peux pas me résigner à cet état de fait. Donc je pense qu'il faut viser cela et que c'est même une urgence aujourd'hui. Hein, c'est absolument une urgence. Regardez ce qui s'est passé avec les brevets sur les vaccins, par exemple. Regardez comment une découverte, comment une avancée scientifique peut être monopolisée, hein, et donc cachée, en fait. Hein, caché parce que quelques trusts vont s'en servir pour faire du profit. Donc vous voyez, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça et surtout, en fait, on court à la catastrophe avec ce diktat-là de la propriété privée capitaliste. Donc moi, je pense que le combat essentiel aujourd'hui, c'est de mettre en avant cette idée, hein, que cette propriété privée capitaliste, elle nous condamne. Elle nous condamne et qu'il faut viser à son renversement et que toutes les défis qui se posent à nous, pas seulement le défi éducatif, hein, mais écologique, économique et social, nécessite de renverser cette propriété privée capitaliste et donc de viser une société collective.
Alors peut-être juste une toute dernière petite question, s'il vous plaît. Ce serait du coup sur votre lutte contre la propriété privée. Vous êtes plutôt sur quelle ligne marxiste? C'est-à-dire plutôt proche des idées de Bernard Friot contre la propriété lucrative ou sur une autre ligne plus traditionnelle marxiste contre toute forme de propriété privée
C'est ça, sur une ligne plus traditionnelle marxiste. Je ne comprends pas ce besoin de revisiter Marx en l'édulcorant. Je ne comprends pas. Et non, je pense en effet que Marx a tout dit de ce point de vue-là. Il a tout dit. Et il a expliqué en particulier quelque chose qui pour moi est fondamental. C'est que le capitalisme, il préparait finalement la place au communisme. Il a préparé la place au communisme dans le sens où il poussait à la concentration des moyens de production, il poussait à l'internationalisation, il poussait au fait de produire ensemble, de produire collectivement à une échelle inouïe. Alors là, il y a une contradiction incroyable. C'est comment, alors qu'on produit de plus en plus collectivement, ceux qui prennent les décisions sont de plus en plus en nombre limité. Pourquoi ces décisions devraient être confisquées par quelques milliers de grandes familles bourgeoises? C'est cette contradiction-là qu'il faut faire sauter. Oui, la société, on fait de plus en plus les choses de façon collective. Les problèmes, ils se posent à l'échelle de la planète. Eh bien, donc, il faut qu'on aille vers une organisation collective de la société. Ça veut dire la collectivisation des moyens de production. Ça veut dire l'expropriation de la bourgeoisie.
Ce sera tout. Merci beaucoup, Madame Artaud, d'être venue.
Eh bien, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.